Vertigo.
Vertigo.
Sur la première.
De 16h30 à 18h.
Bonjour Laurent Gachou.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien. Un peu le trac quand même.
Mais non, il faut pas. Allons. Le trac pour l'émission ou pour la pièce?
Pour la pièce, principalement. Ah, oui, un petit peu l'émission, mais ça
un
va.
Un petit peu, non, mais ouais. Ça va bien se passer, rassurez-vous. Vous avez eu un verre d'eau, vous
oui,
avez
tout, ce qu'il faut.
Tout en tête. Voilà,
j'ai un badge bien. Aussi.
Vous avez un badge? Ouais. Très important. On ne fait pas d'émission dans cette maison quand on est invité sans badge, sinon ça ne marche pas bien. C'est vrai, ça a été vérifié scientifiquement. Cette pièce s'intitule Un obus dans le cœur. Elle est signée de Wajdi Mouawad, qui est en passe de devenir une superstar du théâtre dans le monde, puisqu'il est traduit dans de très nombreuses langues. Il est libanais, vit au Québec. Et l'histoire, c'est celle de Wahab. Il a 19 ans. Il est appelé d'urgence au milieu de la nuit au Québec. Il prend le chemin de l'hôpital sous la neige pour rejoindre sa mère qui est en train de mourir à l'hôpital. Et puis, il va se retrouver confronté par ce biais-là de nouveau à la mort. Et la dernière fois qu'il a été confronté à un épisode traumatique intense, la mort en l'occurrence, il avait 7 ans. C'était un attentat au Liban, un attentat absolument sanglant avec un bus arrosé d'essence et des gens brûlés vifs à l'intérieur. C'est un monologue. Pourquoi avoir choisi cette pièce?
Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une rencontre entre Sofiane Khalfaoui, le comédien, et moi-même. Sofiane, c'est lui qui m'a suggéré cette pièce il y a 3 ans en arrière. J'avais lu beaucoup de pièces de Wajdi Mouawad, mais pas celle-ci. Et il m'a dit, tiens, lis cette pièce, j'ai envie d'en faire quelque chose, j'aimerais peut-être porter ce texte lors de lecture. Et puis, j'ai lu cette pièce, j'ai été vraiment emballé, j'ai pas décroché de ces mots. Et on s'est rencontrés plusieurs fois avec Sofiane pour essayer d'élaborer quelque chose, et puis il en est sorti 5 lectures performances, voilà, où Sofiane on l'a mis dans des espaces comme des cafés à Genève, à Lausanne, aussi près d'Yverdon, et c'est là que je me suis rendu compte en fait du potentiel de ce texte en le travaillant vraiment avec le comédien, sans pression. Parce que voilà, une lecture c'est plus simple, mais ça nous a permis vraiment d'entrer petit à petit sur 2 années en fait dans cette matière avec ces 5 lectures. Et à la fin de ça, je me suis dit, ok, c'est nécessaire de faire quelque chose, d'aller plus loin, que Sofiane puisse s'approprier vraiment ce verbe au fond de son corps, dans ses cellules, pour donner quelque chose dans un espace scénique avec tout le dispositif qui s'ensuit.
Alors cette question du traumatisme, de l'attentat en particulier, on ne se la posait pas tellement il y a une petite dizaine d'années. Puis sont intervenus les événements que l'on sait, on peut parler du 11 septembre 2001 notamment, et puis chaque jour nous offre sa litanie d'attentats, on l'a entendu encore récemment à Bagdad ou à Kaboul. C'est un texte aussi qui est cruellement, je dirais, dans l'actualité. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez à l'esprit lorsque vous montez un spectacle comme celui-ci, Laurent Gachou?
Oui, alors totalement, c'est difficile de faire autrement que de s'approprier ce texte dans l'actualité. Effectivement, la scène de l'attentat que vous avez citée, elle est extrêmement poignante dans la pièce. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est vraiment, d'ailleurs, dans le texte, il parle souvent d'un avant un événement, avant une histoire qui commence et un après. Et puis aujourd'hui, on a l'impression que se resserrent en permanence ces avant et ces après parce qu'il se passe quelque chose dans un pays, il se passe quelque chose ailleurs. Et puis, on est tout le temps remis dans ce présent de finalement entre l'avant et l'après de cette question de la mort, de quelque chose qui peut nous tomber dessus à Paris, à Bruxelles, ailleurs. Et effectivement, dans ce sens, la pièce est totalement actuelle. Et puis, elle, effectivement, comme les mots sont choisis, comment Mouawad exprime à travers son personnage cette scène vécue dans les tripes, on se plonge totalement dans cette dynamique-là et on le vit avec lui.
Avec des allers-retours incessants entre le présent, ce qu'il est en train de vivre, et puis ses souvenirs d'enfance qui sont, donc on l'aura compris, très marqués par cet attentat et ce traumatisme lorsqu'il avait 7 ans. Et comment est-ce qu'on fait face à un nouveau traumatisme?
Dans la pièce, c'est un vrai voyage initiatique. Ça veut dire que le personnage, il décide de ne plus subir en fait ses peurs, qui est représentée en fait par une allégorie qui est la femme aux membres de bois qui apparaît en fait au milieu de l'autobus, au milieu de cet attentat, et il décide dans ce moment présent qu'est la pièce, de faire face à ça, c'est-à-dire d'aller chercher au fond de ses peurs, au fond de sa colère, au fond de ses émotions, des armes pour essayer de passer outre et de sortir en fait de cette histoire grandie et épurée de quelque chose en fait.
La femme de bois, on peut peut-être raconter qui c'est. Lorsque le bus brûle, l'enfant voit une femme en noir avec des membres de bois marcher à travers le bus en flammes, avec les corps qui brûlent, etc., etc., se diriger vers un homme et lui dévorer la tête. C'est la mort.
Oui, c'est la mort, mais c'est plein. C'est pas non plus que la mort, mais ça représente en fait, pour moi, une sorte d'entité horrible qui est faite de peur, qui est faite de toutes ces émotions qu'on refoule, qu'on veut pas voir, et puis à la fois bien sûr qu'elle surgit, puis elle est horrible parce que elle mange un enfant en fait dans le bus, mais tout ça sort finalement de la tête de Wahb, parce que c'est quelque chose qui se représente lui, donc en fait il fait une sorte de projection finalement de ses propres peurs et ses doutes, puis il y a une personnification qui jaillit, et en même temps dans la pièce, si on la creuse un peu dramaturgiquement, on voit que c'est plutôt un cadeau, en fait, que cette femme aux membres de bois lui fait. C'est-à-dire qu'elle lui montre, en fait, qu'il doit aller voir à l'intérieur de lui-même pour pouvoir transcender, en fait, toutes ces peurs qui lui ont été inculquées par cet attentat, puis par plein d'autres choses, en fait, dans son vécu d'enfance.
Alors, dit comme ça, ça n'en a pas l'air, mais c'est une pièce éditée chez Actes Sud Junior, on le précise.
Oui, effectivement, c'est juste. Mais là, j'ai justement sous les yeux, parce que j'aime beaucoup, en fait, cette phrase qui ouvre, en fait, enfin, c'est sur la quatrième de couverture du livre, c'est des textes d'un seul souffle. Les émotions secrètes trouvent leur inspiration dans la parole. Des textes à murmurer à l'oreille d'un ami, à hurler devant son miroir, à partager avec soi et le monde. Je le lis parce que je l'ai retrouvé l'autre jour, je me suis replongé là-dedans, puis je me suis dit, mais c'est une belle intention qu'a posée finalement Wahb en écrivant ces quelques lignes, parce que c'est vraiment ça, cette pièce, c'est que elle peut être hurlée, cinglante, criée, ou tout sort en fait de lui, ou alors on peut aller vers une forme d'intimité, et l'émotionnel dans le chuchotement, dans le murmure, surtout dans une petite salle comme le Pull-Off, là où on crée la pièce, il se passe vraiment des choses incroyables.
On va y revenir à cette pièce. C'est justement cette question d'intimité avec vous, Laurent Gachou. La pièce, donc, c'est Un obus dans le cœur. C'est jusqu'au Pull-Off Théâtre, pardon, à voir jusqu'au 11 juin avec en scène Sofiane Khalfaoui. Voici pour nous Gaël Faure. C'est une nouvelle chanson. Elle s'appelle La saison.
Vois ces frontières tout autour. Comme la nuit les dissout, les lumières qu'on devinait au lointain semblent nous guider, semblent à portée de main. Des lisières que l'on frôle. Sous nos pas de rougir. archipel enfant. Et ta saison qui revient. Le temps passe, je sais bien. Je n'ai jamais cru ne jamais revenir. N'aie pas trop peur, la saison.
Il s'appelle Gaël Faure, c'est une chanson qui annonce un prochain album, me dit François Piton, responsable de la programmation musicale de cette émission. Cette chanson s'intitule La Saison, elle a été coécrite avec Bastien Lallemand. Nous sommes en compagnie de Laurent Gachou, le metteur en scène, le dramaturge, le comédien. Également, on y viendra, votre parcours de comédien et de metteur en scène, Laurent Gachou, pour Un obus dans le cœur, à voir jusqu'au 11 juin. C'est au Poulof, à Lausanne, avec en scène Solfiane Khalfaoui, qui...
C'est juste.
Oui, j'ai cru que j'avais mal prononcé.
Non,
oui, c'est
bien.
Ça. qui est venu vers vous avec l'idée de cette pièce signée Wajdi Mouawad, Un obus dans le cœur. Le texte est édité chez Actes Sud Junior. On a évoqué tout à l'heure la façon de donner cette pièce, d'une certaine manière, sur scène. C'est une pièce qui est très puissante, qui est très intense pour les comédiens. Et vous avez fait un choix. Vous avez voulu la rendre plus intime, c'est-à-dire ne pas hurler quand il faut hurler, mais vraiment donner le texte.
Oui, c'est ça. On a fait plusieurs essais lors des lectures dont j'ai parlé avant. Et il y a des moments, on est parti même dans quelque chose d'assez extrême. Et puis après, ça a été. Je me suis rendu compte que cette pièce, c'est difficile de trouver un juste milieu, en fait. Il y a vraiment cette direction-là où vraiment le texte est donné en puissance. Et puis la version plus intime. Et Sofiane Khalfaoui étant quelqu'un de généreux, c'est-à-dire que naturellement, lui, il va être dans le verbe fort. Mmh. Je trouvais intéressant de prendre un contrepoint, enfin, c'est-à-dire d'aller un tout petit peu à l'encontre de ça pour resserrer le propos. D'autant que pour l'instant, on joue dans des petites salles et j'ai toujours beaucoup de peine avec les textes hurlés dans des petites salles. En fait, il y a aussi ce
ouais.
paramètre-là qui est important. Ouais. C'est clair que si un jour on joue dans une salle de 400 places, on devra ajuster,
ouais.
on devra trouver une autre dynamique. Mais ici, c'était important pour moi d'aller dans ce sens-là. Et moi, je me suis rendu compte aussi que ça renforce en fait la charge émotionnelle finalement. C'est-à-dire qu'elle se ressent plus qu'elle s'extériorise. Et comme la pièce est tout un parcours d'1h30, j'avais envie qu'on crée une sorte de fil de tension comme ça sur tout le parcours pour que les choses s'extériorisent autrement. Et puis en fait, c'est le son et l'image en fait qui vont montrer la noirceur ou la lourdeur ou quelque chose, le grondement intérieur. Voilà.
La pièce en fait, elle se situe sur une échelle de temps de 20 minutes. Elle raconte 20 minutes, c'est ça de...
Ouais, c'est une estimation que j'ai faite. J'ai dit 20 minutes, mais c'est peut-être 30 minutes. C'est dur à estimer ouais. exactement le parcours du départ de son appartement quand il sort le téléphone jusqu'à
ouais.
l'hôpital. Mais voilà, c'est clair que le temps est distendu parce ouais. qu'il y a beaucoup de digressions. C'est ça, sur justement le passé, sur ses réflexions, il y a des moments où on a appelé ça, en fait, avec Sofiane, le niveau 0 puis le niveau 1, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il est vraiment le personnage qui a déjà vécu mmh. l'histoire, il est le narrateur et il raconte ce qu'il connaît, il a même des réflexions philosophiques très intéressantes. Mais en fait, il se fait vraiment happer par le niveau de l'histoire. Très vite, il rentre dedans et c'est comme si au moment de raconter cette histoire, il se fait ronger par le vécu et puis il y entre pleinement. Voilà, pleinement et émotionnellement.
Et comment, lorsque vous avez travaillé cette pièce, comment est-ce que tout à coup la mise en scène s'est imposée à vous? Comment est-ce que vous avez imaginé, dirigé le comédien?
Alors, déjà, je reviens sur les lectures parce qu'elles ont permis déjà d'entendre le texte. Et quand... J'ai monté des spectacles avec texte et d'autres spectacles en écriture de plateau, mais quand j'ai une colonne vertébrale comme le texte, moi j'aime vraiment l'entendre. Et je sens une sorte de musique, de roulement, et souvent même je regarde pas ce qui se passe, j'essaye de plutôt écouter cette musique. Et je me laisse en fait porter par des images. Voilà, des fois elles viennent spontanément, il y a une image qui arrive, une sensation. Et après, bien sûr, c'est des essais, c'est de rester assis sur une chaise, d'être debout, puis de tâtonner comme ça. Et petit à petit, même de faire le texte en mouvement, puis on s'est rendu compte assez vite qu'on voulait quelque chose de simple, de statique. Et après, bien sûr, que j'ai pris plein de notes, des petits dessins sur des images de scénographie, où est-ce qu'on avait envie comment est-ce qu'on avait envie de montrer l'univers, en fait. Et d'ailleurs, on a choisi une scénographie plutôt abstraite, donc on n'est pas du tout dans un hôpital, enfin, tout est suggéré. Mais voilà, et petit à petit se construisent les choses. Et tout à coup, on essaye de mettre un contexte physique en plaçant des éléments dans l'espace, et ça modifie le jeu, et le corps, et la voix. Voilà.
Est-ce que je voulais pas dire le manque de moyens, mais disons la sobriété de moyens,
oui.
Est-ce que c'est pas finalement une chance pour un monologue, c'est-à-dire qu'on doit vraiment toujours avoir l'imagination en éveil?
Oui, effectivement, pour une compagnie comme la nôtre, dans un contexte comme celui-ci, effectivement, on n'a pas des moyens gigantesques, mais là, on a quand même eu un bon soutien, un soutien correct qui nous a permis quand même de créer une scéno et un dispositif d'engager des gens, voilà, pour que ce soit viable. Mais effectivement, moi, j'aime assez les contraintes, parce que sinon je suis assez dispersé, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'idées, d'envie, et puis ben cette colonne vertébrale du texte, les moyens, la salle aussi qui est très contraignante, et ben elle nous a permis de resserrer assez vite pour aller à l'essentiel. Et puis ben le scénographe aussi, dans ses propositions, c'est clair que entre une scénographie à 3 000-4 000 francs ou à 15 000 francs, fait pas la même chose, donc voilà. Mais pour moi, c'est un cadeau.
Ce texte là qui est déjà très tendu, dense et percutant, est-ce que vous l'avez également taillé ou pas du tout? Vous gardez le texte à la virgule?
Oui, on garde le texte à la virgule, ouais vraiment, au mot près. C'est parce qu'en fait, il est tellement bien structuré. Aux lectures, on s'était permis de couper certains passages. Puis en fait, parce qu'on devait travailler vite, et puis il y avait des passages qui étaient plus difficiles à appréhender spontanément dans un dispositif très très court pour travailler. Et puis ces passages, en montant le texte sur scène, en demandant les droits, en fait, on avait vraiment envie d'aller jusqu'au bout et d'assumer les passages qui sont même un peu creux. C'est-à-dire où on sent qu'il y a un ralentissement. Mais ils sont hyper intéressants parce qu'ils ils permettent d'aller en profondeur. Après l'attentat, par exemple, qui est une scène très forte, il y a une baisse de tension. Mais en fait, le texte est ainsi fait que si on suit cette courbe, tout se passe bien et que c'est même juste magnifique.
Ça, vous le découvrez à la lecture du texte, vous le découvrez sur scène, à la mise en scène? Ces moments de creux, ces moments de tension.
Oui, c'est vraiment dans le processus de travail. Et je dirais surtout, c'est même récemment, c'est quand on a pu commencer à faire des filages. Ça veut dire de faire le texte bout à bout, parce qu'on a beaucoup travaillé, on a fait des petits moments de 2-3 jours. Ça, c'est l'avantage quand on travaille avec un seul comédien, c'est qu'on peut faire des petites sessions de travail que j'aime beaucoup. Mais quand tout à coup on construit le puzzle complet de A jusqu'à Z, on sent le rythme général en fait de l'œuvre, et c'est là qu'on voit les creux et comment rattraper la chose, ou alors justement accompagner ou compenser. Enfin voilà, c'est un peu ça. Mais c'est les filages qui ont permis surtout ça.
Donc c'est un spectacle sans vidéo.
Sans vidéo.
Avec de la musique.
Avec du son, de la musique. Sandro Pires qui a fait un travail juste remarquable. Ouais.
Et ça, c'est important pour souligner. Pour permettre aussi aux comédiens de respirer, de se replacer.
Oui, alors pour moi c'est important. Voilà. On aurait très bien pu, je pense, faire cette pièce sans rien, sans son, sans accompagnement. Mais pour moi c'est une manière aussi d'installer un univers, et comme on a pu installer la lumière et la scénographie tardivement. On a travaillé avec Sandro Pires au son dès les premières répétitions. Il nous accompagnait avec des improvisations, et ça c'est précieux. Parce que en fait, je me suis rendu compte, c'est encore plus précieux pour ce monologue, parce que la musique devient un vrai partenaire de jeu pour le comédien qui est seul. Et il y a des sortes de questions-réponses comme ça qui se font de manière très subtile. Mais pour moi, en voyant maintenant le résultat, je suis emballé par ce mouvement, et ça, c'est très auditif en fait. Voilà, je pense que c'est une pièce comme ça, je dirais qu'on peut presque fermer les yeux puis l'apprécier. Et puis, je me dis que là, il y a quelque chose de juste si tout à coup, on pourrait se passer de l'image. Voilà.
Mais si on peut se passer de l'image, alors allons un petit peu plus loin.
Oui.
Est-ce qu'on peut se passer d'aller au théâtre et simplement écouter?
C'est une sacrée question. Non, enfin, oui et non. Oui, bien sûr. Mais en même temps, c'est vrai que l'expérience théâtrale de s'asseoir et de regarder l'univers qu'on a créé, parce que c'est vrai que entre le scénographe David Despierra et l'éclairagiste Renaud Kuhlmans, on a fait un travail aussi très fin sur l'image. Mais je pense tout participe. Voilà, en tout cas moi, oui effectivement, sinon j'aurais pu faire une pièce radiophonique, mais l'idée, non.
C'était pas l'idée du
départ. C'était pas l'idée, non.
Dans Vertigo, nous sommes en compagnie de Laurent Gachou, le metteur en scène, le comédien, le dramaturge également. On va parler de son parcours, de sa carrière, de sa vie, de son œuvre, car il fait beaucoup de choses, Laurent Gachou, principalement s'il est avec nous. Je vous rappelle qu'il y a cette pièce, Un obus dans le cœur. Le texte est signé Wajdi Mouawad, qui est d'ailleurs par ailleurs en ce moment sur la scène du Théâtre de Vidi à Lausanne. Vous allez vous rencontrer, vous pensez, Laurent Gachou, avec Wajdi Mouawad?
Alors Sofiane Khalfaoui lui a écrit une lettre, ouais. Il nous a répondu, il peut pas venir voir la pièce,
il
est débordé.
Il a piscine, oui.
Mais on peut le rencontrer, oui.
Ah, mais c'est très bien.
Samedi soir.
Très bien. Un obus dans le cœur, sur scène, Sofiane Khalfaoui, c'est à voir au Poulov Théâtre à Lausanne jusqu'au 11 juin. Christine Gonzalez est là, Nicolas Julliard est là aussi, il manque Michel Basseret, mais bon,
comme
on s'en a l'habitude.
Hein,
il vient jamais à
17h. Il est tellement snob.
Il est snobisme. Il retouche ses textes jusqu'à la dernière seconde, Michel. Je crois qu'on peut y aller.
Vertigo, Pierre-Philippe Kader.
Une phrase pour vous, Laurent Gachou. Je me demandais comment l'affiche passerait en Valais. À propos d'une affiche sur laquelle vous figuriez nu, non, pour un spectacle.
Ça fait plus de 10 ans, ça.
Ouais, ça fait plus de 10 ans, mais je pense que vous n'êtes pas fait que des amis.
C'était à Vevey que ça avait posé problème, ouais. À l'époque. Oui, c'était un spectacle, un seul en scène qui s'appelait L'Axe du Mal, à l'époque de George W. Bush.
Ouais.
Encore,
ouais.
Ouais. Mm-hmm.
Et puis alors, vous aviez insisté un petit peu aussi, vous, le fribourgeois dans l'âme, je vous cite, je suis plus simple et moins snob que l'arc lémanique.
J'avais dit ça, moi.
Vous avez dit ça.
Depuis, il est devenu vaudois.
C'est ça, depuis, il a beaucoup changé.
Bon, après, je sais plus d'où ça sort ça, mais des fois, les journalistes déforment un peu, non?
Ouais, c'est facile, ça.
Attendez, je l'ai là, quelque part, hein, mais je peux le retrouver si vous voulez. Je vous donnerai le nom du journaliste.
D'accord, merci.
Une autre phrase aussi, si ça ne tenait qu'à moi, je changerais tout le temps des trucs et je serais prêt à faire revenir les comédiens l'après-midi s'il le faut pour changer et encore essayer des choses.
Oui, ça c'est vrai. Ouais, ouais, c'est une sorte de nécessité de une fois que la première est passée, parce que à l'époque quand je bossais dans des spectacles d'humour ou des fois des revues, c'est comme j'étais toujours étonné de la première commence, c'est bon, c'est terminé, et
c'est
puis
gravé dans le marbre.
C'est gravé dans le marbre en fait, et puis pour moi je voyais toujours beaucoup d'incohérences, de choses qui sortaient un petit peu de des intentions qu'on avait posées, et pour moi un spectacle ça reste vivant, ça reste à ajuster. Après, maintenant, je me suis un peu calmé parce que c'est vrai que une période, il y avait trop de changements. Voilà. Ouais. Puis ce changement-là déstabilise aussi beaucoup. Mais des petites choses, quand on sent qu'un spectacle se montre à un public, il va commencer à vivre autrement que quand il est simplement en répétition. Et y a des choses qui passent pas ou qui passent moins bien. Et je pense que ça fait aussi partie de ce métier que de revenir dessus, d'essayer autre chose, de proposer. Voilà.
Vous avez été l'assistant, bref, mais assistant tout de même à la mise en scène d'une superstar du théâtre français, Joël Pommerat. Là, vous avez tout à l'heure raconter que vous aviez écrit à Wajdi Mouawad pour le rencontrer. Joël Pommerat, vous l'avez couru après, littéralement.
Oui, je savais qu'il allait... Parce que j'ai été subjugué par une pièce que j'ai été voir avec un ami. Je découvrais Joël Pommerat, ça m'a scotché. Et comme je présentais en fait un dossier pour obtenir la bourse de compagnonnage théâtral, c'était en 2012, et que cette bourse propose qu'on fasse un stage d'assistant à l'étranger, comme metteur en scène à l'étranger, je savais savais que Joël Pomera venait à Belfort parler après sa pièce et je suis allé, je lui ai parlé, il m'a dit, c'était très sympa, on a discuté 3 minutes, il m'a dit écrivez à mon assistante et puis un jour j'ai reçu un téléphone, bah venez à Bruxelles, on a besoin de monde. Et du coup j'ai fait de la place dans mon agenda puis je suis parti parce que je me suis dit voilà, j'avais besoin d'entrer dans sa démarche pour voir comment il travaille et puis j'ai eu la chance de faire une fois 3 semaines et demie puis une fois presque 3 semaines aussi, deux fois à Bruxelles.
Qu'est-ce que vous avez appris avec lui, avec Joël Pomera ?
Énormément de choses parce que c'est quelqu'un qui déjà c'est une belle personne, c'est quelqu'un qui vraiment une vraie connexion avec les gens, c'est quelqu'un qui est humain tout le temps. Et il est d'un calme, il est toujours aimable et
c'est l'anti-caricature du metteur en scène de théâtre.
C'est ça, mais totalement. Et puis c'est une personne qui prend son temps. Mais il prend son temps et il l'optimise tout le temps. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de perte de temps avec lui. Et puis ça, c'est quelque chose de juste extraordinaire. Parce qu'il a une telle conviction intérieure profonde. Maintenant, j'y vois déjà plus clair 5 ans après. Mais quand j'ai été le voir, il y a des moments où je ne comprenais rien comment le travail se faisait. Parce que quand on est immergé dedans, c'est... Mais il y a quelque chose de magique. Mmh. Et puis c'est un vrai magicien, je pense. Ouais.
On a cité Wajdi Mouawad, Joël Pomera. On va parler maintenant de la femme de Pierre Desproges, à qui vous avez écrit également.
Oui, ça c'était... Moi, ça, c'est encore plus vieux. Ça fera 20 ans. Ouais. En 2018, ça fera 20 ans.
Ce sont vos tout débuts.
C'est mes tout débuts, ouais. À l'âge de 17 ans, j'ai découvert les textes de Desproges. J'avais balbutié au théâtre à Bulle. On avait été mis en scène.
Christine s'en souvient encore.
Ouais, oui, sans doute.
Dans l'âme fribourgeoise. Mais oui, c'était notre prof de français qui voulait monter les exercices de style de Queneau. Donc, je me suis retrouvé sur scène un peu malgré moi. J'étais d'ailleurs un de ceux qui mettaient les pieds contre le mur. Et j'ai eu un déclic à ce moment-là sur cette scène. Et puis, j'ai découvert les textes de Desproges en même temps. Puis, je me suis dit, je commençais à apprendre les textes de Desproges par cœur. Et puis, je les faisais à mes camarades. Je les disais comme ça lors de soirées, etc. Puis, tout à coup, je me suis dit, on va essayer de monter sur scène avec son spectacle. Et puis, comme tout de suite, on me dit, oui, il y a les droits d'auteur, tu peux pas faire ça comme ça. Bon, moi, zut, quoi. Puis, j'avais écrit à la SSA ou téléphoné, puis ils m'ont dit, non.
La Société Suisse des Auteurs.
Ouais, voilà, la Société Suisse des Auteurs. Le répertoire de Desproges est interdit. Point. Alors j'ai déprimé pendant une semaine. Après, je me suis dit, on va pas en rester là. Et j'ai pris je crois que c'était même une lettre manuscrite que j'ai faite à ce moment-là.
Quelle époque.
Et du coup, j'ai écrit à la veuve de Desproges en passant par les éditions, c'était Le Seuil. Ouais. C'est Le Seuil, toujours, je
qui
pense.
Qui édite Desproges.
Et puis, elle a été touchée par ma lettre. Puis un soir, elle téléphone. Puis c'est ma mère qui répond au téléphone. Et puis, elle dit, pour toi, c'est Madame Desproges. Elle était dans un état. Moi aussi. Et du coup, ça s'est passé comme ça. Puis elle m'a dit oui, parce que comme à cette époque-là, je le montais dans un cadre, il y a eu quelques scolaires, puis il y a la Grenelle. C'était non lucratif, oui. Vraiment pas. Ouais. Et du coup, elle a été touchée, puis elle s'est dit bon, allez-y, faites-le. Ouais. Ouais.
Alors, même chose, lorsqu'on joue du Desproges, qu'est-ce qu'on apprend?
À cette époque-là, je crois que je me rendais pas compte en fait de beaucoup de choses ce que ça impliquait. J'étais un peu frais, un peu naïf comme ça. J'avais surtout envie, je pense, de prouver quelque chose en fait, de trouver mon identité. Puis c'est très étrange en fait maintenant quand j'y repense à 18 ans de dire les textes de Desproges parce que il avait 38, 39.
Oui. Il savait qu'il était malade.
Voilà, il savait qu'il était malade. Il parle de femmes, d'enfants, etc. Donc il y avait un gros décalage. Ouais. Mais moi, ce que j'ai appris, c'est déjà de maîtriser un texte bien écrit à la virgule, à la lettre, voilà, sans jamais avoir finalement fait de formation. Et puis, le rapport au public seul sur scène. Et puis finalement, je me suis rendu compte que ça m'a donné une structure parce que c'est tellement bien écrit qu'il n'y a pas, il y a rien à faire. Enfin, il y a juste à dire, voilà. Mais maintenant, je pense que je le ferai autrement.
Ouais. Mais reste que quand même, si vous êtes là, c'est grâce à Desproges parce que vous dites que le théâtre vous a transformé.
Oui. Oui, oui, et ben, je parle, c'est des proches et les exercices de style. Ouais. Enfin, c'est la lubie de notre prof de français, c'est un cadeau pour moi parce que effectivement, j'étais dans une phase d'adolescence difficile, très renfermée sur moi-même. J'avais des longs cheveux.
Vous écoutiez du dark metal. Enfin, oui, on voit bien.
Non, du Pink Floyd.
Ah oui, ça va bien. Mais c'est la phase dépressive. C'est après.
Oui, c'était voilà. Non, j'étais pas très bien. Et puis, du coup, étant pas très bien, très renfermé, beaucoup de la peine à prendre ma place, à trouver place, tout à coup il s'est passé quelque chose sur scène, voilà, tout à coup j'ai fait rire des gens avec les exercices de style, tout à coup il y avait une réaction en face, il y avait quelque chose, puis je me suis dit ah tiens c'est intéressant, voilà, puis après j'ai eu envie de continuer un peu par pulsion, par impulsion, par désir, voilà.
Et puis alors vous avez d'autres cordes à votre arc, parce que outre le fait d'être comédien, metteur en scène, dramaturge, vous êtes passionné, fasciné par le paranormal et la spiritualité.
Oui, oui, effectivement. J'ai découvert il y a une dizaine d'années le monde de l'invisible.
Racontez-nous.
Plutôt par la sensation en fait. Ouais. Ouais, ouais. Et je pratique la géobiologie, donc je m'intéresse à la radiesthésie, à la géobiologie.
Qu'est-ce que c'est que la géobiologie ?
La géobiologie, c'est l'art de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Dans des lieux principalement, voilà. Il y a des gens, bien sûr, des fois j'interviens dans des appartements, des personnes qui sont pas très bien. Alors actuellement, ça touche à plusieurs choses, principalement l'électricité, l'électrosmog et tout ça. Oui. Donc là, c'est clairement des appareils qui viennent mesurer, voilà, parce qu'il y a des gens qui sont sensibles même au point d'avoir des grosses difficultés avec ça. Et puis après, il y a la radiesthésie qui nous permet de voir ou de sentir en fait des nuisances qui viendraient du sous-sol, ce qu'on appelle des failles, des courants d'eau, des choses comme ça. Et puis j'ai développé cette sensibilité en fait, parce que moi-même il y avait des lieux où je me sentais bien, des lieux où je me sentais pas bien. Puis c'est par curiosité, la vie m'a amené un peu à m'intéresser à ça. Et en fait, au final, je me rends compte que c'est vraiment pas loin du théâtre.
Mmh. C'est pour ça que je voulais vous en parler, parce qu'il me semble qu'au fond, ce que vous faites, la mise en scène, le travail avec les acteurs, le travail du texte, le choix du lieu, la scénographie, tout ça, c'est très en lien avec ce que vous pratiquez.
Oui, tout le temps.
Tout le temps.
Oui,
hein.
Et puis d'ailleurs, en plus, avec cette pièce, je suis encore allé chercher plus des outils comme ça pour je dirais qu'on utilise des fois dans le développement personnel pour aller vraiment chercher les failles en nous-mêmes. Et avec Sofiane Kalfaoui, on a vraiment travaillé sur ces concepts-là. En fait, finalement, c'est quelque chose qui, on parle de paranormal, d'invisible, etc. Mais finalement, c'est très concret parce que ça se ramène toujours à la sensation. Ça ramène toujours à ce qu'on perçoit. Ouais. À soi-même, c'est juste qu'on essaye de mettre simplement des étiquettes sur ces perceptions où finalement on a peu l'habitude dans notre société d'aller au bout de ça, c'est-à-dire voilà. Et le théâtre est une porte d'accès à ça. Puis je pense c'est toujours intéressant de le conscientiser. Voilà.
Une question de Nicolas Julliard.
Oui, Laurent Gachou, est-ce que vous ressentez cela dans des salles de théâtre, des endroits où vous êtes bien, des endroits où vous n'êtes pas bien? Est-ce que c'est un handicap par moment, cette perception?
À un moment donné, on perçoit plein de choses. Après, on devient parano de nos perceptions. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de phase où on se dit, c'est la tête qui se dit, ouais, je ne suis pas bien ici, je ne vais pas pouvoir rester là. Mais en fait, au final, c'est qu'une affaire de nouveau de revenir à soi-même. Et puis après, l'idée, c'est de rester conscient en fait de soi, voilà. Moi c'est ça qui me plaît, mais bien sûr qu'il y a des lieux qui sont totalement différents. Moi il y a des théâtres où je me sens à l'aise, d'autres pas. Puis après, un lieu ça s'approprie aussi, voilà. C'est-à-dire quand on investit un théâtre, ben il y a d'autres gens qui sont passés, il y a comme une sorte de résonance de l'avant, voilà. Et quand on vient dans le théâtre, il y a un temps d'adaptation quand on vient dans ce lieu. Et simplement voilà, ça peut se faire de différentes manières.
Christine,
vous pensez qu'il y a des mémoires aussi dans les théâtres?
Ouais,
que ce qui a été joué, ce qui a été dit,
ouais, moi je pense,
reste quelque part entre les murs.
Moi je pense, ouais. Mais il y a quelque chose avec les lieux. J'en ai discuté il n'y a pas si longtemps avec Omar Porras. Il parle très très bien du théâtre Kléber Mello de cette manière-là. On sent que, enfin, pour lui, c'est pas juste des murs qui sont là, c'est une âme. Voilà. Et il le dit clairement. Voilà, après bien sûr que quand je vais dans un appartement pour aider les gens, c'est autre chose, mais voilà, finalement les choses sont vraiment toutes reliées entre elles, ouais. Voilà, c'est quand on dit un lieu à une âme, oui, moi j'aime bien aller un peu plus loin.
Alors vous êtes allé à la cathédrale de Fribourg?
Oui, bien sûr.
Parce qu'elle est particulière.
Oui, alors il y a plein de belles choses à la cathédrale de Fribourg.
Qu'est-ce qu'elle avait pas ça?
La grande dame, elle a quoi?
La grande dame,
ouais,
à Fribourg,
elle a quoi? Parce qu'elle a la cathédrale.
Je ne sais pas si on peut vous révéler le secret, Christine.
J'organise des sorties à la cathédrale de Fribourg. J'en fais une en octobre, si jamais.
Ah oui, ça m'intéresse.
C'est une demi-journée, en fait, pour. Non, mais la cathédrale de Fribourg, déjà, par sa géométrie, en fait, qui est basée sur. C'est une géométrie sacrée. Donc, en fait, ces lieux, à l'époque.
Et son emplacement.
Et son emplacement, voilà. Ces lieux ont déjà été construits et bâtis selon certains principes, de l'architecture qui n'est plus celle qu'on utilise maintenant. C'est déjà une chose. Puis ensuite, effectivement, les emplacements. Alors, la géobiologie permet justement d'aller observer un petit peu que les anciens avaient choisi ces lieux avec la sensation. Il se passe des choses, en fait. On appelle, l'énergie tellurique ou cosmique. Enfin, on peut y mettre plein de mots. Mais c'est justement souvent quelque chose qui se passe de mots.
Qu'on ressent.
Qu'on ressent.
Voilà. Alors, je vous conseille, Christine, une petite visite, n'est-ce pas?
Mais je l'aime beaucoup, cette cathédrale. Elle est très belle.
Et superbe. Lorsque vous rentrez dedans, vous sentez quelque chose.
Je rentre rarement dedans pour être
tout à fait.
Malheureusement, on n'a pas souvent accès, on n'a pas facilement accès au cœur de la cathédrale où les choses sont plus intenses.
Et vous êtes peut-être encore toujours professeur d'art plastique?
Non, je ne le suis
fini,
plus.
Ça.
C'est fini, ça. Ouais. Moi, c'était ma formation de base. Oui. Puis parallèlement, j'ai toujours fait du théâtre parce que quand j'ai commencé à écrire mes premiers spectacles solo, ça marchait un petit peu. Oui. Et puis du coup, je faisais les deux. Oui. Puis c'est petit à petit le théâtre qui est venu grignoter. Puis j'ai dû faire un choix à un moment donné.
Vous avez également écrit pour le petit Sylvain illustré.
Oui.
François Sylvain, qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui pour vous?
Pour moi, c'est à l'époque de mes seuls en scène, avec des proches, c'était un vrai modèle. C'est une personne que j'ai même beaucoup imité. Je pense que c'est François Sylvain, c'est un peu ma formation. Parce qu'en essayant de reproduire ses voix, en essayant de reproduire ses personnages, en essayant de... un de mes premiers sketchs que j'ai écrit, il était totalement dans la forme Sylvain. C'était moins bien réussi, mais c'était quand même des personnages qui évoluent, un comédien qui joue plusieurs personnages. Et du coup, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, pour son travail.
Lorsque vous avez mis en scène quelqu'un qu'on connaît bien dans la maison, lorsque vous avez mis en scène Daniel Fazan, est-ce que vous avez eu à un moment donné une vision comme ça de voir François Sylvain sur scène?
Oui.
Parce que moi, ça m'a frappé. J'ai vu Fazan, je me suis dit, c'est Sylvain.
Mais en fait, Fazan, très naturellement, il fait très très bien les personnages.
Oui.
Il a ce truc-là, quoi. Et dès qu'on a fait des improvisations, il y a des moments, c'est Sylvain, ouais, effectivement. Donc, il y avait quelque chose à faire autour de ça. Maintenant, c'est clair que le spectacle qu'on a choisi de faire, c'est plutôt. Il vient raconter sa vie et il y a quelques personnages.
Oui.
Contrairement à Sylvain qui lui basait principalement toute sa mise en scène et son écriture autour de différents personnages.
Oui. Vous avez écrit quoi pour François Sylvain?
Des courtes phrases, des courts sketchs.
Quel
parce que le petit Sylvain illustré, c'est des trucs très très...
C'est très court.
C'est très court, c'était deux lignes. Puis en fait, on devait on recevait des thèmes, des thématiques, puis je pondais des listes et des listes, puis ils faisaient des lectures et ils choisissaient. Mais il y avait plusieurs auteurs connus.
Ah, il y en a plein.
Bûcher,
Gabriel Barbeza, Valérie Paco.
Ouais. Mais c'était super pour moi de faire ça, en fait. C'était chouette. C'était Gérard Mermet, qui lui m'avait dit, essaye d'écrire. Puis finalement, ils en ont pris. Et puis, très bien.
Ouais. Il y a donc, contrairement à ce qu'on pourrait dire assez souvent sur ce milieu, parfois des moments où on vous tend la main, des moments de bienveillance, des moments de rencontre, comme ça, qui font qu'on évolue petit à petit, non?
Oui. Oui, alors il y a des... Après, il y a aussi les obstacles, mais... non, mais il y a des moments de bienveillance, comme aujourd'hui, d'ailleurs, je trouve.
Ouais.
Mais bien sûr, c'est des parcours... Quand je repense un peu à mon parcours, il va un peu dans tous les sens. Puis aujourd'hui, je me rends compte que les choses se rassemblent tout le temps. Il y a une sorte de phase comme ça où maintenant je me dis je comprends mieux pourquoi pendant toutes ces années je suis parti dans toutes ces directions. Parce qu'il y a vraiment quelque chose, un point d'accroche maintenant. Et après, bien sûr, c'est la bienveillance, c'est les gens qu'on rencontre. Et même si des fois des situations se passent pas très bien, aujourd'hui j'arrive gentiment à voir que ça a été aussi un cadeau. Voilà, parce que j'ai évolué, j'ai appris aussi beaucoup de choses, de moments de tension, de difficultés à monter des projets, de moments où je j'étais pas assez concret, je voyais trop loin, et puis en fait au final dans le concret ça se passait mal, parce qu'il y avait trop d'aspirations, trop d'attentes de ma part en fait, sur les gens, sur les autres, et ben petit à petit en revenant à moi-même de nouveau, en calmant un petit peu les choses, voilà, ben ces rencontres et ces conflits, ben, elles nous amènent au même endroit.
Irrémédiablement, désormais, vous êtes metteur en scène ou vous remonterez sur scène également, Laurent Gachou ?
Je ne peux pas dire, je ne sais pas. Ouais. C'est vrai que j'ai moins l'aspiration à, comme ça, à me dire, oui, je me jette sur scène. Je pense qu'il faudrait peut-être une envie particulière ou vraiment quelque chose que j'ai envie de défendre, mais j'aime vraiment bien être de l'autre côté. En fait, parce que je me rends compte que je peux vraiment utiliser tous ces outils que j'ai glanés ça et là, et l'observation, l'écoute, le ressenti, le contact avec les gens, mettre les gens ensemble. Je me rends compte que c'est quelque chose qui se fait finalement assez naturellement.
Laurent Gachou, merci d'avoir passé cette heure avec nous. Je rappelle cette pièce que vous mettez en scène, Un obus dans le cœur. Le texte est signé Wajdi Mouawad, sur scène Sofiane Kalfaoui, et ça se joue au Pull-Off Théâtre à Lausanne jusqu'au 11 juin. Merci beaucoup, à très bientôt.
Merci beaucoup.
Vertigo sur la première.